Je vais juste dire quelques mots pour vous présenter notre conférencier de ce début d'après-midi. Il s'agit de Mike Evans. Et nous te remercions, Mike, d'avoir répondu favorablement à l'invitation des organisateurs de cette journée. Alors, vous l'avez deviné, Mike n'est pas français. Mike Evans, après un Hollandais ce matin qui a appris le français au Cameroun et en Suisse. On a un Britannique, mais qui vit en France depuis 1967, sauf erreur. Il est accompagné par sa femme, Sylvia, qui est dans l'assistance. Vous avez, je crois, 5 enfants. Et donc, Mike a eu un long ministère, déjà dans l'organisation OM. Il a été directeur de OM France pendant de nombreuses années. Et puis ensuite... OM, Opération Mobilisation. Et peut-être que Mike en dira quelques mots. Et puis, ensuite, directeur de l'Institut biblique de Genève, où Mike donne encore des cours ces dernières années. Donc, merci Mike. Je te passe la parole et tu finiras de te présenter toi-même.
Oui, bonjour à tous. Juste pour vous rassurer, OM, c'est pas l'Olympique de Marseille. Hein. Et ce que Cédric a oublié de mentionner, c'est effectivement, nous avons 5 enfants tous mariés et le privilège d'avoir 18 petits-enfants que nous appelons les chicoufs. Chic, ils arrivent. Ouf, ils partent. Je constate qu'il y a beaucoup de grands-parents ici cet après-midi. Je ne savais pas, en regardant le programme, que parmi les organisateurs, il y en avait qui m'aimaient si peu qu'ils m'avaient collé la rencontre à 14h de l'après-midi. De surcroît, si vous regardez votre programme, la rencontre est prévue de 14h à 15h30. Quelles étaient leurs intentions? Voulaient-ils que je vous assomme complètement? Ou voulait-il que je prêche assez longtemps pour que je ne sois plus jamais invité nulle part? C'est Spurgeon qui a défini la prédication comme étant une demi-heure pour réveiller les morts. Et à vous regarder cet après-midi, j'ai l'impression qu'il a sous-estimé le problème. Annoncer et défendre l'Évangile. Je suis particulièrement heureux de constater que toute cette journée tourne autour de la centralité de l'Évangile. Nous pouvons finalement être d'avis différents dans quantité de domaines, y compris par rapport à de l'enseignement biblique. Nous pouvons avoir d'autres avis, y compris par rapport à tout ce qui est Genèse 1, 11, l'eschatologie, et ainsi de suite. Mais là où nous n'avons aucune excuse de nous diviser, c'est par rapport à l'Évangile. L'Évangile doit être au centre de nos préoccupations. Et comme nous l'a rappelé les orateurs de ce matin, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, et il nous faut éviter de définir le salut toujours comme étant rien que la conversion. Ça, c'est la porte d'entrée. Mais le salut, c'est tout le processus. Depuis la conversion jusqu'à la consommation de toutes choses, y compris notre transformation. Je peux dire aujourd'hui, je suis sauvé et je serai sauvé. Ou comme dit Paul aux Éphésiens, je suis racheté en lui, nous avons la rédemption. Mais plus tard, dans la même épître, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Il y a le « déjà » et le « pas encore ». Et c'est l'Évangile qui fait toute la différence. L'Évangile est nécessaire pour les inconvertis. Et ce qui a été souligné avec vigueur ce matin, l'Évangile est indispensable pour les chrétiens, pour ce processus de transformation. Mais maintenant, nous arrivons à ce sujet peut-être un peu plus technique, annoncer et défendre l'Évangile. Et j'aimerais faire deux remarques préliminaires qui sont finalement liées, assez liées à ce que Frédéric nous a dit en fin de matinée par rapport à tout ce qui est la communication. Il a utilisé donc ce terme « contextualisation ». Pour annoncer et défendre l'Évangile, il faut savoir dans quel contexte nous le faisons. Et deux remarques à ce sujet. Première remarque, c'est que le message de l'Évangile est opposé et écarté dans un contexte, alors que dans un autre contexte, il peut être opposé et écarté pour des raisons tout à fait opposé. J'illustre. Dans notre monde francophone ou européen ou même occidental, l'Évangile est souvent écarté au nom du pluralisme. Et il y a donc plusieurs religions et toutes les religions se valent. Et donc, on écarte l'idée qu'il peut y avoir une seule vraie religion, un seul chemin vers Dieu. Et cela est symptomatique de notre contexte. Mais si je devais vous conduire au Moyen-Orient, les habitants là-bas n'ont aucune difficulté avec l'idée qu'il y a une seule religion. Par contre, eux, ils vont opposer l'Évangile à cause de l'injustice, de l'immoralité, de la corruption, de l'Occident. Parce que nous sommes notre pire ennemi. Donc c'est le contexte qui, finalement, nous fait réfléchir à ce sujet, annoncer et défendre. Deuxième remarque, par rapport donc à notre contexte, quels sont les obstacles particuliers devant lesquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Je me fie à un sondage qui a été fait, et je vous livre quelques-unes de la découverte, quelques-unes. Mais en tout premier lieu, c'est ce que j'ai mentionné il y a quelques instants, ce qui revient souvent, c'est les autres religions. Nous sommes dans un contexte pluraliste où finalement toutes les religions se valent. Impossible de croire en un seul chemin. Notre message est dérangeant. Obscène. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sauf par moi. Ça, c'est l'un des obstacles. Deuxième obstacle que vous connaissez également, le mal et la souffrance. Comment est-il possible, si Dieu existe, s'il est un Dieu d'amour, s'il est le Tout-Puissant, comment se fait-il qu'il n'intervienne pas, qu'il ne stoppe pas, qu'il n'arrête pas les malheurs, la misère et tout ce que nous constatons autour de nous? Ensuite, il y a ce que j'appelle le carcan éthique. Parce que nous sommes perçus comme étant un peuple avec des interdits. Nous avons donc un certain nombre de prises de position par rapport à l'avortement, l'euthanasie, le mariage pour tous. Et donc nous sommes perçus comme étant arriérés d'un autre âge, de notre planète. Notre carcan éthique est finalement perçu comme un obstacle pour approcher l'Évangile. L'histoire de l'Église, bien sûr, on nous le sort constamment, les croisades, le colonialisme, et puis finalement l'ingérence culturelle Je suis sûr que Frédéric pourrait nous en parler par rapport à son expérience en Afrique, mais l'ingérence culturelle, et puis plus récemment encore, pédophilie, scandale financier, l'histoire de l'Église est un obstacle. Je termine. La crédibilité de la Bible. À la lumière, donc, de tout ce que l'on peut qualifier de découverte en science, en histoire, en archéologie, on a de la peine à croire à l'autorité absolue de l'Écriture. Comment faire la part entre légende et histoire? Et puis, comment intégrer dans notre réflexion un Dieu cruel, un Dieu vengeur, un Dieu en colère, qui anéantit les peuples entiers, sans parler des injustices sociales, et plus particulièrement dans certains textes à l'égard des femmes. Et donc, nous avons dans notre contexte des obstacles auxquels il nous faut réfléchir si nous voulons annoncer et défendre le message. Nous ne sommes plus, il y a 50 ans en arrière, comme Frédéric nous l'a dit à plusieurs reprises, où finalement il y avait un fondement sur lequel nous pouvions construire. Aujourd'hui, il n'y a plus de fondement. Nous vivons dans un monde analphabète, illettré par rapport à l'Écriture. Et le problème, c'est que l'Église l'est tout autant. Nous avons une génération d'analphabètes, y compris dans nos Églises, en ce qui concerne l'Écriture. Et le message est le fil rouge de cette parole. Nous vivons finalement dans l'ère instantanée. Un peu de poudre brun, quelques cristaux de sucre, un peu de granulé de lait, on ajoute de l'eau chaude, basta, un bon café. Et nous faisons tout autant avec finalement l'Écriture. Nos 5 minutes le matin avec nos notes pour la lecture de la Bible. Et basta, à demain matin, Seigneur. Et nous estimons que nous avons finalement eu de quoi nous enrichir de la parole. Nous sommes devant un monde inconverti, analphabète, mais souvent avec une église analphabète, en ce qui concerne la parole. Comment donc annoncer et défendre la parole? Et toute la réflexion que je vous propose maintenant est à partir d'un texte que certains contestent. Mais je vais le défendre. En acte 17, lorsque Paul se trouve à Athènes, nous lisons à partir du verset 16, et nous allons laisser la parole finalement alimenter et conduire nos pensées. Si je dis que certains contestent ce passage, c'est parce que quelques-uns pensent que Paul, finalement, il s'est trompé à Athènes. Il n'a pas vraiment annoncé l'Évangile. Il faut savoir que ce que nous avons ici en acte 17, c'est un résumé de son discours. Parce que le texte démarre en nous disant que tous les jours, il se trouvait à l'agora, le marché, pour discuter de Jésus et de la résurrection. Et le texte termine, toujours avec Jésus et la résurrection, mais à l'Aréopage. Donc, il faut faire attention. Ici, nous avons probablement un résumé de tout ce qui se passait jour après jour après jour. Il est vrai que certains disent, oui, mais dans ce passage, on ne trouve aucune mention de la croix. Juste. Mais d'une part, on ne peut pas tout dire dans une seule prédication. Et d'autre part, puisque par deux fois dans ce texte, il est question de la résurrection, je vois difficilement comment on peut parler de la résurrection sans parler de la croix. Donc je récuse cette idée, même si on constate peut-être, bon, il y avait peu de fruits à Athènes, mais je récuse cette idée que Paul s'est trompé dans son message. Au contraire, moi je vais utiliser ce message pour dire non, voilà comment nous devrions annoncer et défendre l'Évangile devant un peuple analphabète, incrédule, idolâtre. Nous lisons. Comme, verset 16, Paul les attendait à Athènes, il avait en lui-même l'esprit irrité, exaspéré, en contemplant cette ville vouée aux idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « Il semble être un prédicateur de divinité étrangère. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ?» Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est même pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. D'ailleurs, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes, il cite, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Dieu, sans tenir compte de tant de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul sortit du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Dénis, l'aréopagite, l'un des responsables de l'aréopage, une femme du nom de Damarès et d'autres encore. C'est la parole de Dieu. Notre Père, ta parole est puissante et efficace, divinement inspirée, utile pour notre instruction, correction. Cet après-midi, nous te disons, nous avons besoin de ton secours, de ton aide, pour nous conduire dans nos réflexions. Je te prie pour que les méditations de mon cœur et les paroles de ma bouche te soient agréables, acceptables. Pour la gloire de ton nom. Amen. D'une certaine manière, Paul n'aurait jamais dû se rendre à Athènes. Deux missionnaires se disputent, âprement, pas pour des questions de doctrine ou de théologie, mais pour des questions de personnes, Paul et Barnabas. Après un premier voyage missionnaire, Marc les a abandonnés depuis la Pamphylie. Il est retourné en arrière. Et lors du deuxième voyage, lorsque Paul dit à Barnabas, « Allons visiter les églises que nous avons fondées en Galatie », Barnabas voulait amener avec eux à nouveau Marc. Paul, pas question. Violente dispute. À tel point que pour une simple question de collaborateur, les deux décident de se séparer. Paul prend avec lui Silas et ils partent pour visiter les églises en Galatie. Lorsqu'il arrive à Lystre, il trouve Timothée. Probablement, Timothée s'était converti lors du premier voyage missionnaire de Paul dans cette ville. En tout cas, ils recrutent ce jeune Timothée et ils le prennent avec eux comme stagiaire. Ils partent dans un projet d'implantation d'église. Et puis finalement, voulant se rendre en Asie, probablement vers Éphèse, le texte dit « le Saint-Esprit les empêche ». Bon. Il remonte au nord-ouest, voulant se rendre en Bithynie. À nouveau, le Saint-Esprit les empêche. Et finalement, il se trouve dans un bled perdu à Troas. Timothée pouvait se poser la question, mais Paul, celui qui a fondé ces quatre églises en Galatie, est-ce qu'il n'a pas assez prié? Il s'est trompé de la volonté de Dieu? Que se passe-t-il? Mais à Troas, vision, viens en Macédoine. Et Paul, finalement, avec ses collaborateurs, partent et fondent une église improbable à Philippe. Persécution, prison, libération, et Paul va plus loin jusqu'à Thessalonique. Il est probable que Luc reste en arrière à Philippe, et donc Paul, Silas et Timothée arrivent à Thessalonique. Et que ce soit Philippe, Thessalonique, Bérée ou ailleurs, il y a deux mots pour décrire le ministère de l'apôtre Paul. Réveil, émeute. Réveil, émeute. Parce que finalement, il y a à la fois une adhésion à l'évangile, mais en même temps une hostilité, une opposition extraordinaire. Et à Thessalonique, c'est la même chose. Réveil, émeute. À tel point que dans le texte de Actes 17, nous lisons ces mots par rapport à ces trois hommes qui sont arrivés à Thessalonique, ceux qui ont bouleversé le monde entier, sont aussi venus ici. Ils n'étaient que trois. Ils ont bouleversé le monde entier. Ils étaient redoutables, ces trois. Et puis finalement, ils sont forcés de quitter Thessalonique pour aller à Bérée, où il y avait des personnes de meilleures intentions, qui reçoivent la parole et qui examinent l'Écriture, comme vous êtes en train de le faire cet après-midi, pour savoir si tout ce que je vous raconte est vrai et qui ne raconte pas trop d'âneries. Alors, à Bérée, à nouveau, les Juifs jaloux de Thessalonique descendent et finalement Paul est obligé de partir. Il part seul, par voie de mer. Et il arrive à Athènes. Une fois à Athènes, il renvoie ceux qu'il avait accompagnés en disant « Fais en sorte que Silas et Timothée me rejoignent le plus vite possible. » Mais en attendant, Paul est à Athènes. Et il fait connaissance de cette ville. Ville importante dans l'histoire de l'humanité. Ville, finalement, avec une architecture extraordinaire. Vous avez probablement, pour plusieurs d'entre vous, visité Athènes. C'est encore majestueux aujourd'hui. L'art, la littérature. Certes, au premier siècle de notre ère, Athènes avait dépassé son âge d'or au 5e siècle avant Christ. Mais malgré tout, Athènes est toujours la capitale du monde intellectuel. C'est finalement à partir de cette ville que toute la pensée occidentale a été influencée. Cette ville nous a finalement légué trois philosophes dont on parle encore aujourd'hui en sujet de Bach. Que ce soit donc Socrate, Platon, Aristote, ce sont des personnes qui ont influencé toute la pensée occidentale. Mais Athènes est également la première démocratie du monde, le berceau de la démocratie moderne. Mais Paul, il ne fait pas du tourisme. Il n'est pas en train finalement simplement d'admirer Athènes. Lui, il voit autre chose. Et comme dit le texte ici, il constate au verset 16, c'est une ville vouée aux idoles. Littéralement, ce verbe voué veut dire submergé à l'excès. Une ville inondée, imprégnée par l'idolâtrie. À tel point qu'un satiriste romain a écrit ceci. Il est plus facile de trouver un dieu à Athènes que de trouver un homme. C'est dire, finalement, à tel point Athènes était vouée à l'idolâtrie. Mais cette abondance d'idoles n'indique pas que finalement l'homme a l'intention de se soumettre à ses idoles, à ses dieux, mais c'est plutôt le contraire. On invente des idoles pour les contrôler. On voudrait un dieu à notre mesure. Et donc, on invente les idoles pour que finalement, ils ne nous dérangent pas. Et ici, à Athènes, il y avait une multiplicité de ces divinités. Certains qui nous revenaient de la Mésopotamie, mais d'autres qui étaient inventés de toutes pièces sur place. Et puis, il y avait pour tous les métiers, je pensais à toi, Christophe, toi, tu es éleveur de bovins, mais il y avait dans cette ville d'Athènes, comme dans beaucoup d'autres villes à l'époque, les dieux des métiers. Alors, si tu étais un viticulteur, mais tu avais ta divinité à toi. Et si tu étais donc menuisier ou maçon, et pour toutes les professions pratiquement, je ne sais pas si c'était vrai pour les bovins, hein, mais en tout cas pour toutes les professions pratiquement, il y avait une divinité, mais ces divinités, on les avait pour les contrôler, pour qu'ils aillent dans notre sens, pour qu'ils nous arrangent en quelque sorte, pour qu'ils s'accordent avec notre point de vue. Et devant cette idolâtrie surabondante, que fait Paul? Le texte dit, il va d'abord dans la synagogue. Dans la synagogue, même si son message n'est pas accepté, au moins il a un fondement sur lequel construire. Il y a l'histoire, la culture, la religion juive. Donc par conséquent, il peut plus facilement apporter le message. Mais maintenant, il est dans un contexte idolâtre, non chrétien, moralement décadent. Comment va-t-il apporter le message? Et c'est ce que je vous propose de réfléchir avec moi cet après-midi. Je vais vous proposer trois pistes de réflexion sur ce texte. La troisième piste sera longue. C'est pour ça qu'ils m'ont donné jusqu'à 15h30. Mais les deux premières pistes, assez rapides. Je vous énumère ces trois pistes et puis après je vais les commenter. En tout premier lieu, Paul cherche un point de contact avec ses auditeurs. Frédéric nous a parlé ce matin finalement, des émetteurs et des récepteurs. Il nous a posé toutes ces questions de codage et de décodage. Il nous a parlé de message, mais c'est cette idée de contextualisation. Il fallait trouver l'accroche. Il fallait trouver le point de rencontre. Et donc, en tout premier lieu, Paul cherche le point de contact. En deuxième lieu, Paul identifie les incohérences, et d'où l'idée défendre ou l'apologétique. Paul identifie les incohérences de ses auditeurs. Et en dernier lieu, et puis nous venons à notre sujet de cet après-midi, Paul annonce et défend les idées principales du message biblique du salut. Alors, nous allons parcourir ces trois idées. Paul cherche le point de contact avec ses auditeurs. Après avoir parlé avec ceux qui fréquentaient la synagogue, le texte dit qu'ils se trouvent tous les jours sur la place publique, probablement l'agora, le marché, et ils discutent, ils s'entretiennent, ils raisonnent avec ces personnes. C'est l'une des propositions de Frédéric ce matin, hein? Il y a l'enseignement magistral, l'ex-cathédra, comme cet après-midi, mais il y a aussi finalement la discussion. Et Paul s'entretenait avec, il raisonnait avec, il discutait avec au sujet de Jésus et de la résurrection. Et puis, à un moment donné, il y a quelques-uns qui le prennent à partie et ils disent, verset 18, « Que veut dire ce discoureur ?» Que veut dire ce... Ils le prennent du haut, ils le méprisent, ils l'insultent. Je vais vous donner le mot grec pour discoureur. Non pas parce que je vous enseigne le grec, mais parce que vous allez tout de suite comprendre le côté un petit peu méprisant. Le mot utilisé ici pour discoureur est spermologos. Spermologos. Autrement dit, c'est un terme athénien de l'argot. Et ça décrivait ces oiseaux, les corbeaux, qui picoraient à droite et à gauche, mais qui ne cherchaient pas leur propre nourriture, mais qui cherchaient plutôt à engranger la nourriture des autres. Spermologos. Et ils disent de Paul, mais c'est un discoureur, c'est quelqu'un qui finalement ramasse des idées à droite et à gauche qui ne sont pas de lui, n'a aucune idée originale, et puis il nous livre ça comme une nouveauté. En français, nous dirons un baratineur, un jacasseur. Il le méprise. Et donc, il l'amène à l'aréopage. Et là, donc, il l'interroge. Paul ne réagit pas devant leurs insultes. Mais il commence en reconnaissant, finalement, leur engagement religieux. Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Certains pensent que c'est un peu ironique, mais même l'ironie est très utile. Moi, je le sais, en salle de classe. L'ironie est très utile, parfois, pour faire comprendre ce qui est difficile à comprendre. Mais même si c'est de l'ironie, Paul est respectueux. Je constate, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Il a observé leurs nombreuses divinités, leurs pratiques, avant de se lancer dans son discours. Mais auparavant, il discutait, il s'entretenait. La raison et l'intelligence ne suffisent pas pour nous conduire à la foi en Christ. Mais Christ, Dieu, nous a créés avec notre raisonnement et notre intelligence. Il ne faut pas mettre les deux en opposition. La raison et l'intelligence sont insuffisantes pour nous conduire à Christ. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les évacuer ou les mépriser. Il faut savoir raisonner. Et c'est ce que Paul fait ici à Athènes. Ça, c'est la première chose. Il est courtois, respectueux. Je vois que vous êtes un peuple religieux. Je discute avec vous. J'essaye de trouver finalement les points de contact. Et dans, finalement, le discours qui va suivre, on constate qu'il a relevé plusieurs points de contact avec ses auditeurs. En deuxième lieu, Paul identifie les incohérences de ses auditeurs. Oui. Après avoir constaté leur religiosité, Paul dit tout de suite, « Oui, mais j'ai même vu une inscription à un dieu inconnu. » Dans le souci de reconnaître un dieu qu'ils auraient oublié, ils ont créé une inscription à un dieu inconnu, ce qui est un aveu d'ignorance. Ils multiplient les divinités. Mais le simple fait qu'ils aient cette inscription à un dieu inconnu indique finalement qu'ils n'ont peut-être pas tout trouvé, mais pire encore, ça indique qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils sont des insatisfaits, ils ne sont pas convaincus, ils cherchent autre chose. Un dieu, c'est une incohérence pour Paul. Vous avez finalement tous ces temples, toutes ces divinités, et puis finalement vous avez une petite inscription à un dieu inconnu. C'est un aveu d'ignorance. C'est une incohérence. Et donc Paul l'utilise tout de suite comme tremplin pour dire, mais ce que vous vénérez sans le connaître, ce qui est un non-sens d'ailleurs, ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vais vous annoncer maintenant. Je pourrais terminer là et tout de suite aborder le discours. Mais je voudrais vous parler, j'ai plusieurs incohérences ici, enfin, pas dans mon message, j'espère, mais j'ai plusieurs incohérences comme illustration. Mais je voudrais illustrer une incohérence devant laquelle vous êtes souvent confrontés. On veut donc apporter l'Évangile à des personnes, voisinage, famille, collègues de travail, et puis, obstacle, moi je suis athée. Fin de discussion, pas du tout. Je conteste le bien fondé de leur confession de foi dans la non-existence de Dieu. Je conteste. Je prétends que ces personnes vivent dans le déni de ce qu'ils savent être vrai. Et que ces personnes tentent de se convaincre que ce qui est inscrit sur leur cœur, de manière indélébile, ne l'est pas. L'athéisme honnête est impossible. C'est une incohérence. Certes, cette connaissance dont on parle n'est pas la connaissance rédemptrice. On est d'accord. Nous devrions distinguer entre l'évidence pour l'existence de Dieu, accessible à tous et inscrite sur le cœur de tous, et puis cette connaissance de la jouissance du salut. Il y a deux choses distinctes. Mais l'athéisme honnête est impossible. Et tous ceux qui se réclament de l'athéisme vivent dans le déni de ceux qui savent être vrais. Et c'est ce que dit Paul aux Romains. Je vous épargne toute la lecture de ce premier chapitre. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils sont confrontés à l'évidence pour Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Je ne vais peut-être pas plaire à tout le monde cet après-midi en citant Calvin. Mais Calvin est l'un de ceux qui a le mieux défendu cette idée que l'athéisme honnête est impossible. Et dans l'institution de la religion chrétienne, dans le troisième chapitre, il a écrit un ensemble de choses sur cette question de la connaissance universelle de l'existence de Dieu. Permettez-moi quelques citations. Frédéric, ce matin, parlait de récepteurs en disant que quelques-uns d'entre nous, nous avons des appareils auditifs. Je ne savais pas s'ils voyaient derrière mes oreilles, mais j'en ai deux appareils auditifs. Et ils sont branchés au maximum. Alors si vous, en tant qu'émetteur cet après-midi, vous voulez dormir, faites-le. Mais mes récepteurs entendent très bien les ronflements. Donc tâchez d'être tranquille. Écoutez Calvin. Il est donc évident pour ceux qui voient clair qu'un sentiment de la divinité est gravé si profondément dans l'esprit humain qu'il est impossible de le gommer. La conviction qu'un Dieu existe est naturellement présente dans tous les hommes comme la moelle dans les os. L'orgueil et la rébellion de certains l'attestent, car en luttant vigoureusement pour s'en débarrasser, ils n'en viennent pas à bout. Plus loin, dans ce même chapitre, j'en conclus que l'existence de Dieu n'est pas une doctrine qu'on commence à apprendre seulement à l'école, mais qu'elle doit être connue par chacun dès le ventre de sa mère, parce que la nature elle-même ne supporte pas que l'on oublie, en dépit des efforts importants déployés par certains. Plus loin, d'ailleurs, bien qu'autrefois et aujourd'hui encore, plusieurs nient l'existence d'un Dieu, il n'en reste pas moins vrai, car quoi qu'ils en pensent, ils le ressentent bien, même s'ils désirent l'ignorer. Je conclue avec Calvin. Dieu se fait connaître à tous les hommes d'une façon tellement forte qu'il est impossible de l'éliminer. L'athéisme est une incohérence qu'il nous faut déconstruire. Et comment savons-nous que tous les hommes savent qu'il y a un Dieu? Mais Calvin le dit, mais il cite Paul, Romains 1, ses œuvres et Romains 2, la conscience. Ou même, bien qu'il ne le cite pas, l'Ecclésiaste, tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Cette connaissance de Dieu est incontournable et indéniable. Elle ne transmet pas la vie éternelle, mais elle rend les hommes responsables devant Dieu. Ils sont, même ceux, comme dit Paul dans Romains 1, même ceux finalement qui ont échangé la vérité pour un mensonge, même ceux que Dieu a livrés à toutes sortes de passions déréglées et qui finalement sont de plus en plus impénétrables par l'Évangile, même ceux-là, ils sont sans excuse, parce que leur point de départ n'était pas l'ignorance, mais leur refus de croire l'évidence qui était là. Et même les personnes les plus éloignées, les plus perverties et corrompues, sont sans excuse, parce que leur point de départ était l'évidence que Dieu leur a donnée dans sa création, dans la conscience. C'est inscrit dans le cœur de l'homme. Donc, Paul, il s'emploie finalement à démontrer les incohérences dans les croyances de ses auditeurs. Et en quelque sorte, ce dont on parle en apologétique, si on veut, ce n'est pas toutes les preuves pour prouver que Dieu, Christ est ressuscité des morts. Ce n'est pas ça qui me concerne. Pour moi, il est essentiel de comprendre ce que mes interlocuteurs croient et pensent. Et mon objectif, finalement, c'est de démontrer là-dedans les incohérences et de les aider eux-mêmes à identifier les incohérences pour que, petit à petit, ils puissent pas eux-mêmes parvenir à comprendre ces incohérences pour accéder à la foi. C'est pas à moi de prêcher en disant t'as tort, t'as tout faux, mais finalement en mettant en évidence, en posant des questions, oui, mais si tu crois ça, tu devrais normalement et logiquement conclure ceci. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Et petit à petit, on les conduit finalement à déconstruire leurs propres arguments. Et c'est ce que Paul fait ici. J'arrive au troisième point. Je vous avais averti, c'est un peu plus long. Mais c'est le discours de Paul. Comment annoncer et défendre l'évangile devant un peuple idolâtre, non chrétien, moralement décadent? C'est du travail. On ne peut plus se contenter de quelques petits constats. Dieu vous aime, vous êtes pécheur, Christ est mort sur la croix, acceptez-le, basta, t'es converti. On ne peut plus se contenter de cela. Nous sommes maintenant contraints, finalement, d'examiner toute l'histoire de la rédemption, toute l'histoire du salut, tout le projet de Dieu depuis la préexistence jusqu'à la consommation. Et puis Paul le fait ici. Certes, c'est un résumé, c'est succinct. Mais Paul, finalement, il ne se contente pas d'un évangile réductionniste. Il ne se contente pas de baratiner quelques mots et de puis faire signer une carte de décision à la fin ou de prier une prière. Non, il est devant un peuple où il faut absolument y aller pas à pas. J'ai presque envie de vous poser la question, même par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, c'est quoi l'évangile? Si je devais vous demander de venir ici à ma place, n'acceptez pas l'invitation parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais si je devais vous demander de venir ici à ma place et de finalement définir l'évangile, qu'est-ce que vous diriez? Et moi je prétends que dans l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ont un évangile trop light, trop réductionniste. Comme les cow-boys autrefois, la seule chose qui compte, c'est avoir un maximum de tués et de scalps. Et finalement, ils réduisent l'évangile à un message simpliste. Est faux, est faux. Vous avez vu? J'ai amené des livres. Et moi, je voudrais vous encourager, au moins, c'est pas très gros, mais un livre que moi je recommande vivement comme point de départ pour toute cette journée. D'ailleurs, les organisateurs auraient dû insister que chacun l'achète pour lire avant de venir. Cela aurait renfloué les coffres de l'Institut public de Genève aussi. Mais ça, c'est un détail. Mais qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Moi, je vous recommande vivement ce livre, écrit par un pasteur aux États-Unis, qui a voulu finalement, devant le réductionnisme ambiant, nous donner le non négociable de l'Évangile. Donc ici, dans ce discours de Paul, nous sommes devant le non négociable. Et ce livre peut vous être utile. L'autre, dans un instant. Alors Paul commence son discours. Et comme je l'ai dit, 5 idées. Et cela, à partir du verset 24, et nous allons regarder chaque idée dans le texte. En tout premier lieu, Dieu est le Dieu créateur. C'est le point de départ. En tant qu'ado, enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant de chrétien, en tant qu'ado, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Est-ce qu'il n'aurait pas pu finalement arriver à ses fins d'une autre manière? Mais la création fait partie de l'histoire du salut. Et c'est là où il faut commencer. Dieu est le Dieu créateur. Et Paul dit ici donc, le Dieu qui a fait le monde, verset 24, et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Alors, ça me permet de présenter l'autre livre. Parce que finalement, le message de salut doit examiner toute la métarécie biblique, depuis la création jusqu'à la consommation de toutes choses, en passant par la chute, la loi, les égarements du peuple, le Messie, la rédemption, le retour et la gloire. Et l'un de mes amis, mes théologiens préférés, Carson, québécois, il est né au Québec, de parents missionnaires anglophones au Québec. Il a rédigé ce livre en 14 chapitres, « Le Dieu qui est là ». Si vous voulez communiquer l'Évangile à vos contemporains, moi je vous recommande la lecture de ce livre pour vous-même, parce qu'il part avec la création et il traverse toute l'Écriture avec le fil rouge de l'histoire du salut. Non seulement vous pouvez donc lire ce livre et le remettre à d'autres, mais si vous allez sur le site de Évangile 21, vous trouverez toutes les vidéos en français tirées de ce livre. Parfois pour faire des cellules de maison, pour inviter vos voisins, vos amis à découvrir l'Évangile. Ce n'est pas un light en 20 minutes, c'est 14 vidéos. Mais dans le monde moderne, avec les obstacles devant lesquels nous nous trouvons, il ne faut pas un évangile étriqué. Donc Paul commence avec la création. Il est devant l'élite à l'Aréopage. Et on constate ici que, pour prendre un petit peu de temps, pour vous ennuyer, avec les épicuriens et les stoïciens, de quoi s'agit-il ? Les épicuriens, ils enseignaient que les dieux, parce qu'il y en avait plusieurs, les dieux étaient distants, lointains, et ne s'intéressaient absolument pas aux affaires des hommes. De surcroît, les épicuriens ne croyaient absolument pas à la vie après la mort, à la résurrection. Et pour les épicuriens, le seul objectif dans la vie, c'était le plaisir. Et par conséquent, ils ne vivaient que pour cumuler un maximum de plaisir et en évitant tout ce qui était finalement désagréable, la souffrance et ainsi de suite. Dieu, finalement, il est lointain, il ne s'intéresse pas à nous, il ne s'intéresse pas à notre vie. Il n'y a rien après la mort de toute manière. Et donc la doctrine d'aujourd'hui que nous trouvons autour de nous, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est exactement la même chose. Les épicuriens. Puis il y avait les stoïciens, dit le texte. Eux, ils reconnaissaient l'existence d'un Dieu, mais pour eux, ils étaient panthéistes, c'est-à-dire que Dieu était partout et en tout. Dieu est dans les feuilles, Dieu est dans les fruits, Dieu est dans les animaux, les étoiles, la lune, le ciel, il est partout, Dieu. Ils étaient panthéistes, mais en plus fatalistes. Ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient influencer quoi que ce soit dans la vie, et donc ils se résignaient à la vie. Et donc, ils enduraient les souffrances, les difficultés, les épreuves, les problèmes. Ils étaient donc fatalistes, d'où notre expression, ils sont stoïques. Et nous avons finalement autour de nous aujourd'hui, on ne les appelle pas les épicuriens ou les stoïciens, mais nous les avons tout autour de nous. Mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Et de toute manière, Inch'Allah, qu'est-ce sera, sera. Les fatalistes. On a les deux. Et Paul est devant ces deux-là. Et Paul s'y oppose fermement dans le texte. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le monde et tout ce qui s'y trouve a été fait par Dieu et il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'est ni distant, ni indifférent. Il ne peut être confiné, limité à un bâtiment, un temple, un lieu géographique. Donc déjà là, il déconstruit toute une partie de l'idolâtrie. Dieu est le Dieu créateur. Mais l'écrivain aux Hébreux, lorsqu'il introduit son 11e chapitre, nous dit tout autant, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Or, par la foi, nous croyons que Dieu, il est le créateur. Et de l'invisible, il a créé le visible. La création est le point de départ dans notre communication de l'Évangile à un monde analphabète. Le Dieu créateur, un Dieu personnel, un Dieu Seigneur, un Dieu qui n'est pas indifférent, mais un Dieu qui ne peut pas être confiné dans un temple ni dans un bâtiment. C'est Salomon. Oui, vous allez me dire Salomon. Il a construit un temple. Oui, mais Salomon, lors de la dédicace du temple, il dit même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Par conséquent, il faut revoir et réviser tout ce que nous croyons par rapport à la création. Et en deuxième lieu, verset 25, Paul dit qu'il est le Dieu de la providence. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Les idoles, ils ont besoin des hommes. Les idoles ont besoin des hommes pour les mettre sur un piédestal. Parce que les idoles ne bougent pas, ne mangent pas, n'entendent pas et ne parlent pas. Les idoles sont dépendants des hommes. Et c'est pour ça que les hommes les créent. Parce qu'ils aiment bien avoir les dieux qui dépendent d'eux. Les idoles sont dépendants des hommes. Dieu n'en est pas ainsi. Dieu est un Dieu qui est un Dieu de providence. Non seulement il a tout créé, mais il soutient toute chose. Il est intimement impliqué dans sa création. Que ce soit les lois naturelles, physiques, il est intimement impliqué par sa parole puissante. Et comme dit Paul ici, il nous donne vie, souffle et toute chose. Dieu n'a pas besoin de nous, comme ce texte indique que les idolâtres croient. Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin finalement à ce qu'on le serve avec des mains humaines. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous, nous avons besoin de Dieu. L'idolâtre cherche à domestiquer Dieu, comme un animal domestique. Quelqu'un finalement, ou comme un chien, on lui dit « couche, mange » et ainsi de suite. Parce qu'on veut contrôler les idoles. Mais Dieu ne peut pas être domestiqué. Notre Dieu est un Dieu de... Le mot « providence » veut dire « prévoyance ». Notre Dieu est un Dieu qui est impliqué intimement dans tout ce qui est la création qu'il a fait. En troisième lieu, le texte, versets 26-27, Paul continue, parce qu'il est en train de faire un cours de théologie biblique. Il dit que Dieu est également le souverain qui règne sur toute sa création. Regardez bien ce qu'il dit dans ces versets. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, Adam, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés par, pour eux et les bornes de leur demeure afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver et, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul affirme qu'à partir d'un seul homme, Dieu a établi toutes les nations avec leur territoire et leurs époques historiques. Nous avons un Dieu qui est le maître de l'histoire et de la géographie, des temps et des saisons. Quand nous lisons dans l'Écriture, par rapport finalement à l'exil du royaume du Nord, mon serviteur Cyrus, ou de Nebuchadnezzar par rapport au royaume du Sud. C'est Dieu qui établit tous ces royaumes, tous ces peuples, avec leurs limites géographiques, avec la durée de leurs empires. Dieu est un Dieu souverain, il est sur le trône. Rien ne se passe en dehors de son contrôle. Moi, je vais partir ce soir avec Sylvia vers Lyon. Et je peux dire la chose suivante. Un accident peut m'arriver, mais rien ne peut m'arriver par accident. Parce que nous avons un Dieu qui règne. Et le psaume 29 nous le rappelle, même lors du déluge, lorsqu'il n'y avait que 8 personnes qui furent sauvées dans l'arche, Dieu était sur son trône. Il n'a pas perdu les contrôles. Il n'a pas perdu les pédales. Il est souverain. Il a déterminé les bornes, dit le texte, de toutes les nations. Et vous, les Athéniens, fiers comme vous l'êtes, avec vos philosophes, avec votre démocratie, avec votre architecture, si vous êtes là, c'est que Dieu vous a établi, mais Dieu connaît le début et la fin de votre empire. Mais Paul continue en disant que si Dieu est souverain, s'il est souverain, c'est qu'il a un objectif très précis, afin que les hommes cherchent Dieu, dit-il là, en plein milieu de notre texte, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver. L'objectif de Dieu en créant, dans sa providence, dans sa souveraineté, l'objectif de Dieu, c'est que les hommes puissent le trouver. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. Dieu ne s'est pas éloigné de nous autant que nous, nous nous sommes éloignés de lui. Parce que le texte nous dit, il n'est pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin. En fait, le plus cher désir du cœur de Dieu, aujourd'hui même, cet après-midi, c'est d'être trouvé. Et rien ne lui procure plus de plaisir que d'être trouvé. Il est souverain, mais s'il est souverain, c'est parce qu'il veut que les hommes le cherchent. Il dit ici, oui, certes, en tâtonnant. Oui, pourquoi pas? Parce que l'homme, depuis la chute, est aveugle. Il ne voit pas clair. Il sait que Dieu existe. Il ne peut pas être athée. Mais il cherche en tâtonnant. Et à nous d'annoncer le message de telle sorte que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit. Et en avant-dernier lieu, pour vous qui comptez, puisque c'est le quatrième point, Dieu est le Père de l'humanité. Et c'est là où Paul cite l'un des poètes grecs, Aratas, et voilà la citation, « Nous sommes aussi de sa race », dit ce poète. Et Paul continue, « Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Nous sommes de sa race. Nous sommes créés en son image. Et dans ce sens-là, Dieu est le Père de toute l'humanité. En tant qu'humain, nous avons les émotions. Nous avons la capacité de raisonner, de réfléchir, de discuter. Nous avons la possibilité de prendre des décisions, de choisir. Puisque nous sommes de la race de Dieu, il est déshonorant de croire que Dieu peut être limité à une image en or, en argent ou en pierre. Il ne peut pas être moins personnel que nous. Et puisqu'il nous a créé personne, avec les sentiments, la capacité de réfléchir, de choisir, Dieu ne peut pas être moins personnel que ça. Et donc Paul dit, c'est inconcevable. Et d'ailleurs, c'est une image que nous trouvons dans toute l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, la relation entre Dieu et son peuple, c'est par rapport au mariage, la famille. Dans le Nouveau Testament, Christ et l'Église, mariage, Dieu et la famille. C'est une relation personnelle. Et Paul dit, réduire Dieu à une statue de votre imagination, en or, en argent, en pierre, c'est une insulte, c'est du blasphème, ce n'est pas possible. Bien sûr, pour nous chrétiens, il y a un autre sens que nous donnons au mot « Père ». Il est le Père de toute l'humanité parce qu'il est le Créateur, mais il est le Père des croyants parce qu'il nous a adoptés dans sa famille. Donc il ne faut pas confondre les deux utilisations du mot « Père » dans l'Écriture. Et finalement, dit Paul, Dieu est le juge du monde. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde entier selon la justice, par un homme qu'il a choisi, désigné, et il en a donné à tous une preuve de foi, digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. Paul revient finalement au point de départ en parlant à nouveau, ici au verset 30, de l'ignorance. Au début de son discours, Paul, il constate l'ignorance en mentionnant cette inscription à un Dieu inconnu. Pendant son discours, Paul démontre l'ignorance. Parce qu'en parlant d'un Dieu créateur, un Dieu de providence, un Dieu souverain, en parlant d'un Dieu père de l'être humain, maintenant d'un Dieu qui juge, systématiquement et implicitement tout au long, il a déconstruit les arguments des idolâtres. Et maintenant, à la fin, Paul affirme que leur ignorance est coupable. Il a donné une preuve de leur culpabilité, désormais en ressuscitant Christ. Devant la révélation générale, c'est-à-dire la nature et la conscience, devant la révélation spécifique, à savoir Jésus, la croix et la résurrection, Dieu annonce maintenant que les hommes ont à se repentir ou à faire face à son jugement. Et dans ce texte, Paul dit trois choses sur ce jugement qui doivent nous faire réfléchir. Et il n'y a aucune doctrine dans l'Écriture qui me crée plus de difficultés sur le plan émotionnel que cette doctrine des peines éternelles, la doctrine de l'enfer, les personnes qui seront éternellement conscientes de leur mauvais choix. Il n'y a aucune doctrine plus difficile à encaisser que celle-là. Mais ce que Dieu dit ici, par l'intermédiaire de Paul sur le jugement, vaut la peine d'être souligné. En tout premier lieu, le jugement est universel. Pas uniquement le monde occidental. Pas uniquement ceux qui ont finalement eu le privilège d'avoir été exposés au christianisme. Le monde entier. Le monde entier. Et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a fait, de la lumière qu'il a reçue. Ah, les amis, il faut réfléchir. Tous les êtres humains, il n'y a pas d'athée honnête, tous les êtres humains ont reçu cette révélation générale, ces œuvres, leur conscience, c'est inscrit dans leur cœur. Qu'ont-ils fait de cette lumière? Et nous qui avons reçu beaucoup plus de lumière, qu'avons-nous fait de cette lumière? Le jugement sera universel. Le jugement sera juste, dit Paul. Il n'y aura pas, finalement, d'injustice. Dieu est juste. Moi, je ne peux pas répondre à toutes les questions par rapport à la justice de Dieu, mais je sais qu'il est juste et le jugement sera juste. Et en dernier lieu, il sera définitif. Définitif. Le jour est fixé et le juge est désigné, Jésus-Christ. Comment annoncer, défendre l'Évangile devant un monde non chrétien, corrompu, pervers, avec tant d'obstacles que nous rencontrons. Comment ? Il faut chercher le point de contact. Quelle est finalement l'accroche ? Et comment par la suite aider la personne à se rendre compte des incohérences dans ce qu'il pense ou ce qu'il croit penser ? Mais ensuite, cela doit ouvrir la porte pour que nous puissions annoncer un message non négociable, complet, qui démontre le projet de Dieu depuis la création jusqu'à la consommation de toutes choses, et qui finalement permet à ce que toutes nos fausses idées soient petit à petit balayées. Qu'est-ce qu'il a balayé ici, dans ces quelques mots ? Dieu n'habite pas dans un temple fait des mains d'hommes. Dieu n'est pas servi par les hommes, il n'est pas dépendant des hommes. Dieu ne peut être réduit à une image en or, en pierre ou en argent. Déjà, il a déconstruit plusieurs de leurs arguments. Et par conséquent, je vous invite à travailler, à réfléchir au contexte dans lequel vous vous trouvez, et par la suite, comment articuler le message, l'évangile que Dieu nous a confié, de telle sorte que nous puissions gagner l'écoute, la confiance, mais pas avec un petit message comme une assurance tout risque que l'on peut vendre de porte en porte. Non, un message de salut, de conversion et de transformation. Dieu est le Dieu créateur. Dieu est le Dieu de la providence. Dieu est un Dieu souverain. Dieu est le Père de l'humanité puisqu'il a tout créé. Mais Dieu est le juge du monde. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais cela exige de ma part un travail. Jules Marcel Nicole, professeur autrefois à l'Institut biblique de Nogent et directeur de cet institut, devant les étudiants parfois qui, parce qu'il donnait le cours d'homilétique, comment prêcher, devant les étudiants parfois qui lui disaient « Oui, mais monsieur Nicole, travailler, préparer un message, la technique et tout, on n'a pas besoin de tout cela. Le Saint-Esprit va nous inspirer au moment même. » C'est vrai. Comme disait Frédéric ce matin, il faut un peu d'équilibre dans la vie. Et Jules Marcel Nicole disait ceci à ses étudiants, et ça m'est resté, parce que j'ai hérité le cours après lui. Il m'a dit, « Cher ami, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, mais jamais dans notre paresse. » Autrement dit, si nous voulons annoncer et défendre le message, il faut connaître le contexte, et réfléchir comment communiquer au peuple qui nous entoure. Je vous invite à prier. Notre désir et notre prière, Seigneur, c'est que ta parole reste. Qu'elle puisse continuer à nous enseigner, nous instruire, nous conduire dans les œuvres que tu as préparées pour nous d'avance. Et que nous soyons des dispensateurs pertinents, percutants de ta parole auprès de nos contemporains. Et veuille permettre que pour chacun d'entre nous, comme nous l'avons entendu ce matin, l'Évangile soit davantage une réalité dans nos vies, de par la transformation de nos pensées, nos actes, nos gestes, nos paroles, que l'Évangile puisse être démontré par notre manière de vivre. Comme Paul, que nous puissions dire à ceux qui finalement nous entourent, Oui, vous avez reçu la parole comme elle est véritablement, la parole de Dieu, mais cette parole n'est pas venue uniquement par des explications et avec la puissance de l'Esprit, mais vous avez pu voir comment nous étions parmi vous à cause de vous. Que nous soyons messagers et messages cohérents, nous te prions. Merci de nous aider et que cette journée puisse servir ta cause, ton royaume éternel. C'est notre prière en Jésus. Amen. Je me permets. Ah. Parce que j'ai dû demander à deux jeunes de porter les cartons. Donc, puisque je ne veux pas demander aux deux mêmes jeunes de reporter les cartons, il faudrait les vider. Non, non. J'ai deux livres que je voudrais vous recommander. Et je sais à qui je parle. Le projet bienveillant de Dieu pour elle et lui. C'est une femme théologienne, ancienne féministe, qui a écrit ce livre sur le dessein de Dieu pour l'homme et la femme dans la création, dans le mariage et dans l'Église. Et je dois avouer, je n'ai absolument rien lu d'aussi remarquable et de convaincant que ce livre. Et trop souvent, nos avis sont fondés sur nos traditions, nos coutumes, nos pratiques, et pas suffisamment étayés sur la parole de Dieu. Et moi, je vous recommande, et pour votre nouvelle génération en particulier, les jeunes comme moi de moins de 30 ans, je vous recommande de remettre ce livre entre leurs mains. Quel est le rôle de Dieu pour l'homme et la femme depuis la création, dans l'Église et dans le mariage? Et un autre qui vient de sortir depuis une semaine, qui parle toujours de cette question donc de annoncer, défendre l'Évangile, un livre de John Piper, que les nations se réjouissent. Et c'est un livre extraordinaire qui nous parle de la mission, mais où notre engagement dans la mission, ce n'est pas par devoir, ce n'est pas par la crainte du retour de Christ, mais parce que nous voulons reconnaître la suprématie de Dieu et l'honneur et la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Et Piper, de manière extraordinaire, sous-titre « Dieu au cœur de la mission ». Et vous qui êtes intéressés par la mission, ça vient de paraître depuis une semaine, je vous le recommande vivement. Publicité est terminée. Merci.